Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, de la gastronomie avec Laurent Mariotte. Et on va partir du côté de Vienne avec lui, voire de Prague. Vous allez comprendre pourquoi en deuxième heure. Et comme nous sommes vendredi, il y aura également l'actualité et les coulisses médias du sport avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Notre info média, ce matin, nous recevons un ministre. Assurez-vous, on ne va pas parler des retraites. Jean-Noël Barrot sera avec nous, ministre délégué à la transition numérique et au télécommunications. On est dans notre sujet et on va parler d'avenir. Que faire face aux influx voleurs? Comment protéger nos enfants des mauvais usages du numérique et même nous-mêmes? Et puis l'IA, l'intelligence artificielle, est-elle une arme dangereuse au service du complotisme? L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a dit que l'IA était plus dangereuse que l'arme atomique. On va demander évidemment au ministre ce qu'il en pense. Notre invité ensuite dans la partie culture, c'est l'écrivain et dramaturge Laurent Sexic, traduit dans le monde entier notamment pour ses livres et sa pièce de théâtre autour de Zweig. Dans son dernier roman, il s'attache à un autre génie de la littérature. Le titre « Franz Kafka ne veut pas mourir ». Kafka était atteint de tuberculose qui était inguérissable en 1924. Tout est parti de ses dernières paroles, sa dernière phrase à son médecin. Il lui a dit « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Ça, c'est kafkaïen. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Un présentateur de BFM TV mis en retrait après des soupçons d'ingérence étrangère également. M6 qui lance une chaîne d'un nouveau genre avec Combini, l'un de ses dirigeants vous expliquera tout. Et puis une nouvelle émission qui débute ce dimanche sur LCP, c'est animé par Mazarine Pinjot. Vous l'entendrez à la fin de ce journal.
Mais d'abord évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3.
C'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 5,3 millions de téléspectateurs, soit 25,8% du public pour la série portée par Thomas Sisley. C'est stable par rapport à la semaine dernière. À la deuxième place, France 2 avec l'émission politique L'Événement, c'est son nom. 2,7 millions de téléspectateurs et 12,7% de part d'audience pour l'émission de Caroline Roux qui recevait hier la première ministre Elisabeth Borne. C'est en hausse par rapport au précédent numéro diffusé mi-janvier dans lequel Caroline Roux recevait Jean-Luc Mélenchon. Et puis France 3.
C'était un flop total.
Exactement. Et France 3 à la troisième place derrière avec le téléfilm policier La mort est dans le pré. 2,2 millions de téléspectateurs, soit 11% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Je cite le fait que l'émission avec Jean-Luc Mélenchon a été un flop total parce qu'on n'avait pas pu les donner le lendemain parce que c'était un jour où il y avait un bug chez Médiamétrie.
Exactement.
Voici pourquoi je le dis, c'était en dessous du million et je crois de mémoire que France 2 n'était même pas dans le top 5. On va démarrer ce journal des médias avec un présentateur de BFM TV mis en retrait après des soupçons d'ingérence étrangère.
Oui, il s'agit de Rachid Mbarki, une information dévoilée hier par nos confrères de Politico. Le présentateur est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus non validés par sa hiérarchie. Selon Politico, il s'agit, je cite, d'une dizaine de contenus suspects qui conduisent la direction à s'interroger sur l'origine de sujets liés au Maroc, au Soudan, aux oligarques russes ou encore aux critiques du Qatar. Avec en creux cette question, le journaliste aurait-il agi au service d'intérêts de puissances étrangères? Une enquête a été ouverte en interne. En attendant ses conclusions, le journaliste a été écarté de l'antenne. Joint par Le Parisien, il dément en bloc ses accusations, parlant de fantasme. Contactée par nos soins, la chaîne BFM TV ne souhaite quant à elle effectuer aucun commentaire sur cette affaire.
M6 a annoncé hier la signature d'un partenariat avec Combini.
Oui, la chaîne qui va lancer avec le média en ligne une fast channel. Alors qu'est-ce que c'est une fast channel? Parce qu'évidemment chez vous en voiture vous dites mais de quoi il parle? Je vais tout vous expliquer, rassurez-vous. Fast, c'est l'acronyme de Free Ad Supported TV, c'est-à-dire une chaîne gratuite financée par la publicité et diffusée de manière linéaire. C'est comme de la télévision, mais attention, ça se regarde que sur Internet ou les téléviseurs connectés. Je vous propose d'écouter Frédéric de Vincel, il est directeur général des programmes en charge des plateformes digitales au sein du groupe M6.
Dès 2021, on a mené une expérience pendant l'Euro en proposant une chaîne Fast. Ça a été un grand succès et donc on a décidé de poursuivre cette expérience et proposer des nouvelles chaînes, par exemple des chaînes de téléfilms ou des chaînes de telenovelas ou bien que ce soit des chaînes de marque comme autour de la marque Vice par exemple. On propose des chaînes que l'on peut regarder 24 heures sur 24 et c'est un peu le paradoxe du digital qui finalement relinéarise ces programmes.
Frédéric de Vincel, directeur général en charge des plateformes AM6 et cette Fast Channel créée avec Combini sera donc à découvrir sur 6play à partir du mois de mars.
Et les Fast Channel, vous en avez peut-être chez vous, c'est notamment la chaîne Samsung à voir sur les télé Samsung ou la chaîne LG à voir sur les télé LG. On va consacrer un dossier à ce sujet prochainement. L'émission Touche pas à mon poste blanchie par l'ARCOM.
Oui, décision rendue publique hier, le gendarme de l'audiovisuel qui se prononçait sur une séquence diffusée en octobre dernier. L'animateur et ses chroniqueurs avaient alors célébré en grande pompe sur le plateau un record d'audience. Certains avaient pointé du doigt cette célébration car elle était intervenue le lendemain d'une émission en grande partie consacrée à un fait divers tragique, celui de la mort de la petite Lola. Mais pas de quoi convaincre les conseillers de l'ARCOM. Ils ont donné raison à Cyril Hanouna et à C8, estimant, je cite, que les audiences saluées concernaient les deux premiers mois de la saison et non des séquences récentes au cours desquelles des événements tragiques ont pu être évoqués, et de conclure qu'il n'y avait là absolument aucune atteinte à la dignité de la personne humaine.
Canal Plus épinglé pour ne pas avoir flouté des marques de tabac.
Et la chaîne qui était poursuivie en justice par une association anti-tabac en cause la diffusion en 2021 d'images de logos de marques de cigarettes et de vapotage. C'était lors des championnats du monde de Formule 1. Ces marques apparaissaient sur des voitures de course ou encore des casquettes de pilotes. La chaîne a été condamnée à 30 000 euros d'amende avec sursis. Elle doit également payer 25 000 euros de dommages et intérêts au Comité national contre le tabagisme, une peine qui prend en compte la bonne foi de la chaîne, comme l'a relevé le tribunal. Celui-ci a également pris en considération les diligences mises en œuvre depuis par les chaînes du groupe.
Voilà, puisqu'il y avait des marques de vapotage et puis aussi des images d'archives. On voyait notamment Ayrton Senna avec les voitures de l'époque en 91 où ce n'était pas flouté.
Oui, et le tribunal qui a également estimé que Canal avait une marge de manœuvre réduite dans la mesure où elle diffuse des images d'un fournisseur.
Exactement. La FOA, c'est un signal global qui est donné à toutes les chaînes. Une nouvelle émission lancée ce dimanche sur LCP, la chaîne parlementaire.
Ouais, c'est à 23h, ça s'appelle La philosophie du vivant. C'est animé par Mazarine Pinjot. Elle s'entretiendra chaque dimanche avec un philosophe au menu des discussions sur le thème de la démocratie, de la préservation de la vie ou encore du réchauffement climatique. Et c'est une grande première pour Mazarine Pinjot. Elle n'avait jamais animé auparavant d'émission à la télévision. Elle s'est confiée à notre micro.
Porter une émission, ça n'est pas la même responsabilité que lorsqu'on est chroniqueur, mais j'avoue que je n'ai pas forcément une vocation à animer une émission, mais là, il s'agit vraiment d'une conversation. Je trouve que les philosophes ne sont pas assez à l'antenne, on ne les entend pas assez, et donc il y a ce petit espace pour essayer de les écouter et voir comment ils posent les questions, et ils posent les questions de manière un peu différente de ce dont on a l'habitude. Pour l'instant, il y a six émissions programmées. Elles sont toutes anglées autour de la question du vivant et de la crise climatique. Mais ensuite, chaque philosophe s'en empare à sa manière.
Mazarine Pinjot a retrouvé ce dimanche sur LCP. On va changer de chaîne, on va partir sur Canal Plus Doc pour finir ce journal.
Oui, la chaîne dédiée aux documentaires qui proposera samedi soir une série documentaire baptisée Voyage en Autistan. C'est réalisé par Guy Baucher. C'est en deux épisodes. Le premier est diffusé à 20h55 et le second à 22h. On y suit les aventures au bout du monde de Joseph Chovanec. Alors Joseph Chovanec, c'est un nom qui doit vous rappeler des souvenirs, chers auditeurs, puisque vous l'entendiez ici sur Europe 1 il y a quelques années. Il est écrivain, docteur en philosophie et sociologie. Il parle une dizaine de langues, rien que ça. Et il est atteint du trouble du spectre autistique. Il a été diagnostiqué Asperger à l'âge de 21 ans. Ce sont les voyages qui lui ont sauvé la vie. C'est lui-même qui le dit. Dans ses aventures, il porte son regard si singulier sur les pays qu'il traverse. Je lui ai demandé comment lui était venue l'idée de cette série documentaire.
C'était avant tout une fabuleuse aventure de longues années sur Europa et qui maintenant est devenue une série de documentaires, une série de voyages dans des pays différents, peuplés de gens différents. Et quand j'ai la chance de me rendre, que ce soit au Liban, aux Seychelles ou dans d'autres pays encore, c'est à chaque fois pour rencontrer toute la biodiversité humaine et de pouvoir échanger avec ces gens-là, des gens atypiques, des gens qui travaillent avec des gens atypiques, et c'est surtout beaucoup de bonheur.
Joseph Chovanec, à qui j'ai également demandé s'il avait un message à faire passer avec cette série documentaire, sa réponse est, vous allez l'entendre à mon cher Philippe, tout simplement incroyable.
Être normal, c'est souvent être malheureux, et que le rôle des personnes bizarres, c'est d'aider les gens d'invalides. C'est peut-être ce que j'ai pu découvrir au cours de mes années de pérégrination.
Magnifique définition de la bizarrerie et de la normalité.
Formidable définition.
Joseph Chovanec a retrouvé dans Voyage en Autistan. Ce sera samedi soir sur Canal Plus Doc et sera également disponible sur MyCanal, évidemment. Merci beaucoup Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias, les audiences du week-end. Et je vous dis bon week-end.
Merci, à lundi.
Dans un instant, notre info média du jour, on reçoit Jean-Noël Barrot. Il est ministre de la transition numérique et des télécommunications. On va lui demander comment faire pour que le numérique ne soit pas régi par la loi de la jungle. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le ministre du vertige, celui d'un futur fait des plus grandes promesses et des plus grandes angoisses. L'intelligence artificielle, en révolutionnant la médecine, fera-t-elle de nous tous des centenaires fringants ? Ou alors, va-t-elle remplacer l'homme devenu inutile ? Sera-t-elle au service du progrès ou du complotisme et des fake news ? Sera-t-elle l'instrument d'un nouveau siècle des Lumières ou alors des pires obscurantismes ? C'est le ministre d'un domaine qui change la vie, comme on dit, bien plus vite que les slogans politiques. Comment nous protéger et protéger nos enfants des mésusages du numérique et de ses nombreux dangers ? Comment imposer des règles à des entreprises plus riches et plus puissantes que des États sans toutefois museler le déploiement de l'innovation chez nous ? Comment épouser les promesses du progrès en évitant que notre futur ne se transforme en une mauvaise histoire de science-fiction ? Tant de questions au cœur de l'actualité hier, tandis que l'Obs faisait sa couverture sur ChatGPT, Paris Match consacrait pas moins de 4 pages aux influx voleurs. Et ce matin, sur Europe 1, on parlait de l'attrait du complotisme pour les jeunes générations à l'heure du numérique. Aujourd'hui, on parle de ces sujets. Nous recevons donc le ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous. Je disais ministre du vertige. Vous comprenez que tous ces enjeux que couvre votre ministère génèrent souvent autant d'angoisse que d'espérance.
Absolument, les technologies nouvelles que vous avez citées, notamment l'intelligence artificielle, l'arrivée de ChatGPT, c'est porteur d'un certain nombre de promesses pour l'accélération de la recherche scientifique, pour la création artistique, pour même l'accessibilité de celles et ceux qui sont éloignés du numérique. Mais ça présente évidemment un certain nombre de dérives, de risques, de manipulations, de déshumanisation, des questions démocratiques et éthiques que je prends à bras-le-corps.
Alors depuis 2 semaines, l'affaire des influx voleurs fait l'actualité. Je vais résumer les derniers épisodes. 2 influenceurs installés à Dubaï, Marc et Nané Blatta, auraient utilisé leur célébrité pour inciter leurs followers, ils sont nombreux, à des investissements soi-disant magiques, en fait très risqués. Les investisseurs naïfs, est-ce un pléonasme, ils ont perdu leur argent, tandis que le couple s'est enrichi en prenant des commissions. Il y a un collectif qui porte plainte, l'affaire éclate dans les médias, les géants du web finissent par fermer les comptes Instagram et Snapchat de Marc et Nané Blatta, mais ça arrive, comme toujours, bien trop tard. En attendant, les victimes ont perdu leur argent. Pendant des mois, ils agissaient en toute impunité, sans que les plateformes ne fassent rien, question, ni l'État.
Il faut d'abord rappeler ce que sont les influenceurs. Les réseaux sociaux ont permis le développement de cette nouvelle activité qui a un certain nombre d'avantages, puisque certains influenceurs participent à l'éducation des publics sur un certain nombre de thèmes, de sujets, y compris de l'éducation scientifique,
bien
ce
sûr.
Qui est bienvenu.
On a souvent reçu ici des professeurs, par exemple.
Et il y a effectivement des professeurs qui se sont réinventés en influenceurs, et c'est une bonne chose, puisqu'ils apportent de l'information de première main, de qualité sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui, on l'estime, 150 000 influenceurs en France. Mais évidemment, il y a les risques que vous citez, celui des escroqueries, celui de la manipulation, et auxquels nous devons apporter une réponse. Et c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire a souhaité que nous puissions avancer sur ce sujet. Il a lancé une consultation en ligne au début du mois de janvier, à laquelle 20 000 personnes ont participé, qui va venir nourrir les travaux menés par des groupes de réflexion qui ont été lancés en fin d'année dernière et qui vont permettre d'aboutir à un certain nombre de propositions pour faire 3 choses. Protéger les consommateurs contre les arnaques, accompagner les influenceurs, il n'y a pas de statut aujourd'hui pour cette nouvelle activité, et puis sanctionner les tricheurs plus efficacement.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui s'était en personne emparé du sujet publiquement. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment fait-on pour protéger les Français d'influenceurs, pas toujours très honnêtes, qui vivent à Dubaï et qui les arnaquent sur des réseaux sociaux américains, voire parfois chinois ?
Vous savez, il est tout à fait possible de réguler l'espace numérique pays par pays, et c'est ce que nous faisons en France et en Europe pour mettre fin à un certain nombre de pratiques auxquelles s'adonnent les grandes plateformes. Et donc s'agissant des influenceurs, il est tout à fait possible de créer des cadres acceptables d'une activité telle que celle d'influenceurs et de sanctionner les arnaques, de sanctionner les tricheries et de protéger les consommateurs. C'est ce que nous allons faire à l'issue de ces travaux que Bruno Le Maire a enclenché.
Mais les sanctionner comment? Pour prendre l'exemple, j'en parle parce qu'il y a une double page dans Match absolument saisissante où Marc Blatta et sa compagne dans une voiture à Dubaï, dont même les appuis-têtes sont floqués de leur nom avec cuir qui doit être hors de prix. Comment fait-on pour les sanctionner alors qu'ils ne sont pas en France?
La première des choses, même si je ne veux pas préempter le résultat des travaux qui sont menés actuellement.
Et Marc Blatta, c'est un exemple. Je voulais dire, quiconque aurait contrevenu à la loi française, mais s'il n'est pas en France sur le territoire, comment faites-vous?
Quand on contrevient à la loi française sur un réseau social, la première des choses, c'est qu'on peut être exclu et exclu définitivement de toute activité sur ce réseau-là. Et ensuite, lorsqu'on en a causé du tort à des ressortissants français, eh bien, il y a des actions en justice qui peuvent être entreprises. S'agissant d'un contexte nouveau, puisqu'on est sur Internet avec des activités qui ne sont pas encore balisées, il est nécessaire justement de créer un cadre qui dise ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et que les poursuites éventuelles puissent s'engager sur ce fondement.
On est tout à fait d'accord avec vous. La question, c'est la réalité, c'est le cadre. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il soit mis effectivement en place? Mardi dernier, il y avait 3 Français victimes de cyberharcèlement qui ont demandé au tribunal correctionnel de Paris de bloquer Twitter. Qui, en ne coopérant pas avec la justice, a bloqué l'enquête qui a abouti à un non-lieu. C'est un peu complexe, mais je vais vous raconter l'histoire. 3 personnes, une rescapée du Bataclan, le père d'une victime et un ancien journaliste ont été harcelés et menacés de mort, de façon anonyme, pour avoir défendu le retour en France des femmes de djihadistes. Mais quand les enquêteurs ont sollicité Twitter pour remonter vers l'identité des auteurs anonymes, là, Twitter a refusé de coopérer et l'affaire en est restée là.
Si c'est avéré, c'est inacceptable car les plateformes qui diffusent sur le territoire français et européen doivent coopérer avec les autorités judiciaires. Mais s'agissant plus généralement du cyberharcèlement, c'est vrai que nous devons aller plus vite pour traiter ces problèmes-là. Nous avons vu il y a quelques mois les streameuses, ces créatrices de contenu sur les réseaux sociaux se manifester parce qu'elles considéraient que les atteintes à leur dignité, le cyberharcèlement dont elles faisaient
l'objet
n'était pas suffisamment rapidement traité. J'ai réuni avec Isabelle Rome, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ces streameuses. Nous les avons entendues. Nous avons depuis réuni les plateformes sur lesquelles ces streameuses travaillent. Et nous réfléchissons à la fois au niveau des plateformes, mais aussi en termes de réception des plaintes par la police, par la gendarmerie et de traitement de ces plaintes par la justice. Vous savez qu'avec la loi pour les valeurs de la République, nous avons créé un parquet numérique, mais dont il faut qu'il puisse accélérer ce traitement des plaintes, parce que certaines situations sont totalement inacceptables et mettent en danger ces personnes.
D'un mot, Twitter a été racheté par Elon Musk. Je ne vous apprends rien. Vous avez la chance de rencontrer Elon Musk, même le privilège, lors de vos déplacements aux États-Unis. C'était à l'occasion du CES de Las Vegas. Avez-vous eu le temps de lui parler de ces sujets de harcèlement avec Elon Musk? Et que vous dit-il si oui?
Je suis allé voir Elon Musk pour m'assurer auprès de lui qu'il est bien en train de prendre toutes les dispositions pour se conformer aux règles européennes qui vont entrer en vigueur cette année. Ces règles européennes...
Voilà. Que vous a-t-il dit? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que pour lui, on est un tout petit pays dont il n'a que faire, ou au contraire, c'est important pour lui d'avoir une tête de pont en Europe?
Ces règles européennes, elles disent que, contrairement à ce qui a été le cas depuis 20-30 ans, sur Internet, les plateformes de réseaux sociaux, les plateformes de marché ont une responsabilité vis-à-vis des contenus illicites, vis-à-vis du cyberharcèlement qui se déroule sur leur plateforme.
Ça, c'est votre point de vue. Que vous a-t-il dit?
Il nous a dit qu'il était d'accord avec les grands principes. Il l'avait déjà dit au président de la République et il nous a dit qu'il était en train de prendre les mesures nécessaires pour adapter Twitter, la plateforme, à ces nouvelles règles européennes, que ses équipes participeraient aux réunions préparatoires organisées par la Commission européenne et que lui-même, éventuellement, y participerait personnellement.
Il viendrait.
Donc, nous restons vigilants. Nous allons regarder avec attention si oui ou non les mesures sont prises. Et le juge de paix, eh bien, ça sera l'application de ces règles européennes. Si elles ne sont pas appliquées par Twitter, c'est dans un premier temps une amende de 6% du chiffre d'affaires. Donc, c'est 300 millions d'euros pour Twitter. Et si Twitter récidive, alors c'est interdiction de diffusion sur le territoire européen.
Jean-Noël Barrot, ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications, il reste avec nous dans Culture Média. On va parler de l'intelligence artificielle, des espoirs et aussi des craintes qu'elle suscite. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Noël Barrot, ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications, vous dépendez du ministère de l'économie de Bruno Le Maire. On va parler d'intelligence artificielle, un sujet qui comporte des enjeux déterminants pour l'avenir à la fois économique, sociaux et politique de la France. Sujet qui donne le vertige, les progrès fulgurants de l'IA. Question puisque ça fait partie de votre champ de compétences. Où se situent les entreprises françaises dans cette guerre qui semble, vu de l'extérieur, avoir été gagnée par les Américains ?
Les Français sont très en avance sur l'intelligence artificielle.
Ah bon ?
Et dans toutes ces entreprises américaines, notamment qui développent des solutions d'intelligence artificielle, on retrouve des Français. Je pense à Yann Loquin, je pense à François
Yann
Chollet.
Yann Français, c'est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta,
absolument,
à savoir le nouveau nom de Facebook.
Absolument. Nous avons aussi, une très belle entreprise fondée par des Français qui est désormais établie aux États-Unis qui s'appelle Hugging Face. Mm-hmm. Mais heureusement, nous avons aussi en France de vrais talents. Je pense à Stéphane Mala qui détient la chaire d'intelligence artificielle au Collège de France et des laboratoires de premier rang. Et donc, nous n'avons pas perdu la bataille et je pense que la France peut rester dans la course.
Oui, mais de manière industrielle, on l'a perdue. Il n'y a pas d'entreprise française, il y a des Français qui, c'est le brain drain, il y a des Français qui vont travailler pour les Américains, mais il n'y a plus de Français qui restent en France comme il y en a chez Peugeot ou chez Renault.
Depuis 5 ans, depuis le rapport Villani qui a fait un premier état des lieux de l'intelligence artificielle, nous investissons massivement en matière d'intelligence artificielle. Nous avons investi 3 milliards et nous allons continuer pour soutenir le développement de ce type de modèles comme ChatGPT qui émergent depuis 2019. Nous allons former jusqu'à 8000 professionnels experts de l'intelligence artificielle, chercheurs, techniciens, juristes, pour que la France puisse rester dans la course.
C'est pas un pléonasme. Auparavant, l'intelligence artificielle, pour les gens, c'était artificiel. Et puis avec l'arrivée de ChatGPT, le grand public a vu concrètement l'enjeu et quelle était la révolution qui se jouait. Vous avez senti cette différence de perception ?
Clairement, ChatGPT a popularisé, démocratisé l'intelligence artificielle avec ses promesses dont on parlait tout à l'heure, d'accélération du progrès technologique. Il y a un modèle très similaire à celui de ChatGPT qui a permis d'accélérer considérablement la recherche sur les molécules. Mais il y a des risques de manipulation, de discrimination, de non-respect de la propriété intellectuelle et de déshumanisation. Et face à cela, nous voulons agir. Nous voulons investir, je l'ai dit, mais nous voulons aussi mettre un certain nombre de grands principes de garde-fous.
Alors, pour qui ne l'a jamais vu fonctionner, ChatGPT, c'est un joli logiciel accessible gratuitement, pour l'instant, à tout le monde. Il peut faire beaucoup de choses à notre place, par exemple créer des poésies, écrire des chroniques ou des cours de fac, passer des examens, rédiger des dissertations sur mesure. Et devant le risque de triche, Sciences Po a interdit vendredi l'usage de ChatGPT. Question, est-ce que cette interdiction, c'est une solution ou est-ce que c'est de l'obscurantisme qui ne dit pas son nom ?
ChatGPT, ou plus précisément OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, a publié il y a quelques jours une solution à destination des universités et des écoles pour vérifier si oui ou non il y a triche. Ce qu'il faut qu'à terme...
Vous savez pourquoi je souris ? Parce que comme on peut demander beaucoup, beaucoup de choses à ChatGPT, par exemple, des gens sont amusés à demander « Écris-moi un scénario qui puisse plaire à Télérama ». Et on avait l'impression de lire une chronique de Télérama. Mais si...
Oui, mais il est tout à fait...
Si ChatGPT, je vais aller au fond de ma question, c'est tellement malin, tellement intelligent, je crois que c'est 145 milliards de données qui sont concentrées, qui peuvent vous sortir en 10 secondes, est-ce qu'on peut lui demander d'écrire une dissertation dont l'école de Sciences Po n'arrive pas à reconnaître qu'elle a été écrite par une main artificielle ?
Non, il existe des moyens d'identifier si oui ou non ChatGPT a participé à la rédaction d'un texte. Le problème, c'est qu'au moment où ChatGPT a été publié, ces solutions de vérification n'étaient pas prêtes. Elles sont en train de le devenir et il sera désormais possible de vérifier si oui ou non il y a eu triche. Et c'est évidemment une bonne chose. Et je crois que plutôt que d'essayer de bloquer à tout prix des modèles comme ChatGPT, il faut aussi qu'on commence à éduquer notre jeunesse au potentiel de ces logiciels-là et à leur usage pour que nous puissions en avoir la pleine maîtrise et la pleine compréhension.
Alors beaucoup se sont amusés à détourner les usages de ChatGPT. En s'y prenant bien, on peut lui faire rédiger un texte convaincant qui démontre que la Terre est plate ou que le cancer se soigne avec du vinaigre. Est-ce que ce n'est pas de la folie de mettre cet outil dans la main de comploteurs, de complotistes ?
Je l'ai dit, ce type de modèle présente un certain nombre de dérives. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous ? D'abord, je vais saisir le Comité national pilote pour l'éthique du numérique. C'est une instance qui a été créée en 2019 par le président de la République, qui est rattachée au Comité national d'éthique du professeur Jean-François Delfraissy, qui avait émis un avis il y a 2 ans sur les agents conversationnels, les chatbots comme ChatGPT, et auquel je vais demander d'actualiser son avis pour nous dire si, en l'état, notre droit est suffisamment protecteur pour éviter ce type de dérive. Et puis en parallèle, au niveau européen, nous négocions avec les autres États membres un règlement sur l'intelligence artificielle qui va créer un cadre qui soit à la fois propice à l'innovation, puisque nous voulons que l'intelligence artificielle se développe en Europe pour en garder la maîtrise, mais qui soit aussi suffisamment protecteur. Et la France a d'ores et déjà obtenu que les solutions comme ChatGPT soient intégrées dans le cadre de ce règlement européen.
Actu du matin, il y a un juge colombien qui hésitait dans une décision. Il a annoncé avoir consulté ChatGPT pour rendre son jugement. Est-ce que c'est une solution pour régler l'engorgement des tribunaux? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer le juge? Comment vous voyez ça, puisque vous êtes la puissance publique?
Je vous le dis tout de suite, l'intelligence artificielle type ChatGPT ne pourra pas, en Europe, en vertu de ce règlement européen que nous sommes en train de négocier, être utilisée pour rendre la justice. Et je précise au passage que la justice est rendue au nom du peuple français, en France en tout cas, et qu'il est évidemment inacceptable et inenvisageable qu'elle puisse être rendue au nom de quelqu'un d'autre.
J'ai la même question que celle que je vous ai posée au sujet d'Elon Musk. Vous avez rencontré les dirigeants d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT, lors de votre déplacement aux États-Unis. Sur quoi ont porté vos discussions et que vous ont-ils dit ?
Précisément sur la manière de contenir les dérives en termes de manipulation, en matière de déshumanisation.
Eux-mêmes ont conscience qu'ils ont, si j'ose dire, je vais dire des grands mots, mais qu'ils ont enfanté un monstre.
Ils ont parfaitement conscience que cette activité nécessite qu'un certain nombre de garde-fous soient posés. Que ces garde-fous peuvent en partie être posés par le concepteur de la machine lui-même, mais qu'il y en a une autre partie qui relève du débat démocratique et qu'il appartient à la puissance publique de fixer un certain nombre de bornes éthiques. Et Sam Altman, le fondateur et dirigeant d'OpenAI, nous l'a dit très clairement.
Et là, comme ça, on verra les leviers d'action du politique. Je voudrais juste vous faire réagir. Faut que je trouve, voilà, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui a déclaré, c'était le 27 juillet dernier, que l'intelligence artificielle était aussi dangereuse que la bombe atomique.
C'est comme toute technologie, elle peut être source de progrès, d'émancipation, de libération, mais elle peut être aussi une source de régression, de repli, de violence. Et donc, il nous appartient d'en faire le meilleur usage.
Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot, d'être venu ici en direct dans Culture Média. Je rappelle que vous êtes ministre de la transition numérique et des télécommunications. Merci encore.
Merci
pour ce direct et ces infos et ce scoop sur la saisie à laquelle vous allez procéder. Nous, dans un instant, chronique sport média hebdomadaire de Sacha Nokovic. Il va nous expliquer pourquoi Apple nous prend pour des Américains. Que veut-il dire par là? Il va nous dire. Et puis, Bruno Donner arrive pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie dans ce studio de Sacha Nokovic, on va entendre sa chronique sport média hebdomadaire. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier soir, vous avez donc forcément suivi l'interview d'Elisabeth Borne sur France 2 et vous l'avez trouvé en grande délicatesse avec la communication de crise.
Oui, vous faites bien de le préciser, Philippe. Je vais vous parler ici de communication, c'est-à-dire de performance médiatique et non pas de politique pure, puisque savoir si une réforme des retraites est nécessaire ou pas n'est bien sûr pas notre objet dans cette émission. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de l'interview qui s'est déroulée hier, il faut d'abord poser quelques éléments de contexte, car Elisabeth Borne intervenait dans une ambiance plus que délicate. 64% des Français sont opposés à la réforme qu'elle défend et au moins 1 200 000 personnes ont défilé dans les rues ce mardi. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Ça, c'est pour les chiffres. Et pour les mots, maintenant, eh bien, la Première ministre est en fait prise en étau, coincée entre deux références, deux symboles assez lourds à porter. Le premier, c'est Fabien Roussel du Parti communiste qui lui a étiqueté sur le front il y a 3 jours.
Et j'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher. Ne vous comportez pas comme à Margaret Thatcher.
À Elisabeth Borne.
À Elisabeth Borne, ouais. Non mais vous voyez un petit peu le lapsus. Quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher.
Eh oui, en feignant d'avoir commis un lapsus, il l'a comparé à l'ancienne première ministre britannique qu'on avait surnommée la Dame de Fer. Car le mistigris qui colle aux chaussures d'Elisabeth Borne, c'est bien sûr sa prétendue rigidité. Et si je vous dis chaussures, Philippe, c'est un peu imprécis. Oui. Car en vérité, l'autre référence qui est dans l'inconscient collectif de tous les Français, c'est une petite phrase prononcée en son temps par un certain Alain Juppé.
Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail.
Alors à propos des fameuses bottes d'Alain Juppé, il faut savoir que le Premier ministre de Jacques Chirac avait prononcé ces mots pour se défendre d'une polémique qui concernait le prix de son logement, absolument pas de sa réforme des retraites avortée, mais preuve que la rigidité n'est pas une bonne stratégie en matière de communication politique, tout le monde croit aujourd'hui qu'Alain Juppé avait évoqué sa rectitude et ses bottes pour défendre sa réforme de 1995. Bref, ce qui était donc en jeu hier soir pour Elisabeth Borne, c'est cette image d'une première ministre de fer nettement trop rigide. Donc, pour réussir son interview, il fallait avant tout qu'Elisabeth Borne parvienne à se défaire de ses bottes. Le hic, c'est qu'elle est restée collée, scotchée à ses semelles et qu'elle n'a à aucun moment réussi à trouver le tire-botte. D'ailleurs, elle a commencé par se tromper de mots.
Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions.
Elle a utilisé à 5 reprises la même formule. J'entends.
Pourquoi vous avez fait ce choix-là? J'entends
et vous savez, moi j'entends maintenant beaucoup de commentaires. Et puis moi j'entends ceux qui nous disent aussi, c'est pas le moment.
Or, j'entends, ce n'est pas tout à fait, j'écoute et encore moins je comprends ce que disent les Français. Car Elisabeth Borne a donné l'image de quelqu'un qui n'avait à aucun moment pris la mesure de l'hostilité que sa réforme suscite. La preuve, elle s'est présentée à l'émission avec un élément assez baroque.
Et si on peut projeter peut-être quelques courbes, on voit que le système, il est en déficit.
Vous êtes venu avec une courbe qui représente le déficit.
Elle est venue avec des croquis, avec des graphiques et des statistiques, alors que l'on attendait plutôt d'elle des émotions. Et peu importe que la réforme soit plus injuste pour les femmes que pour les hommes, comme l'a récemment concédé son ministre Franck Riester.
On demande aux Français de passer progressivement de 62 ans à 64 ans, les femmes aussi.
Les femmes aussi, c'est comme ça et pas autrement, pas négociable, un point et puis c'est tout. Hier soir, Elisabeth Borne est donc restée durant toute son intervention arc-boutée rigoureusement sur la même ligne, une ligne froide, technique.
Alors pourquoi on fait cette réforme ?
La ligne dite de la pédagogie de la réforme, elle a juste oublié un petit détail que Jean-Michel Apathy a pourtant parfaitement mis en évidence, sondages à l'appui, samedi dernier sur France 5.
L'opposition à la retraite monte, monte, monte. Plus le gouvernement l'explique, et plus les gens s'opposent.
Eh oui, la droiture de l'explication n'est pas la botte secrète de la communication politique. Voilà pourquoi, hier soir, même si, comme Alain Juppé en son temps, Elisabeth Borne a probablement eu le sentiment de faire son travail, elle nous est apparue assez maladroite dans ses bottes.
Merci Bruno Donnet.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bon week-end à Bruno Donnet, il est 9h48 sur Europe 1. On retrouve Sacha Nokovic, son rhume et sa chronique Sport Média. Le programme du jour, Sacha, une tisane et au lit.
Ouais,
pas du tout.
Ouais, du sirop pour arriver au bout. Hein.
Le programme du jour, sans blaguer.
Un documentaire fort et touchant sur la maternité chez les joueuses de foot professionnelles. Et une info de dernière minute, ça vient de tomber, hein, sur la diffusion des JO de Paris. En 2024 sur France Télévisions.
On s'est parlé hier soir, donc je ne suis pas au courant de l'info sur les JO. D'abord, on va démarrer avec la plateforme Apple TV qui a dévoilé cette semaine les détails de sa première offre de sport en direct en Europe.
Et oui Philippe, ça y est, après avoir laissé le champ libre à un autre géant du numérique, Amazon, sur le marché des droits sportifs, notamment le tennis et la Ligue 1, l'empire Apple contre-attaque avec la Major League Soccer. Est-ce que vous connaissez la Major League Soccer ?
Mais oui, c'est les Américains et les Canadiens qui se battent en foot.
C'est exactement ça. Voilà.
Ils appellent le foot pour eux, c'est ce qu'on appelle nous le foot américain, et notre foot c'est le soccer chez eux.
Ok, mais est-ce que vous connaissez un joueur de MLS,
monsieur ? Non, avant je connaissais Thierry Henry et Pelé il y a très 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 longtemps.
Exactement, Beckenbauer aussi.
Voilà,
il
exactement,
a joué
enfin les retraités.
Voilà, mais aujourd'hui zéro, on ne peut pas citer un joueur, et ça veut tout dire ce petit sondage. En Europe, c'est clairement pas le droit le plus bankable.
Non.
Mais bon, il faut bien se lancer hein, pour Apple, surtout qu'elle a signé cette marque un contrat de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans. Pour les droits du monde entier, donc autant commercialiser ce petit pass MLS dans plus de 100 pays. Mais le problème, c'est les tarifs qu'elle a annoncés cette semaine pour cet abonnement. Apple, là, nous prend clairement pour des Américains. On avait déjà l'habitude avec leur smartphone, mais là, c'est quand même très fort. En France, tenez-vous bien, il faudra payer 13,99€ par mois.
Non.
Oui, ou 98€ la saison, si vous préférez, pour voir uniquement la MLS sur Apple TV. Alors, il y a quelques mois, je vous parlais ici dans Culture Média du prix à payer hein, chaque mois pour voir absolument tout le foot à la télé sur les plateformes. C'était 75€ par mois. Mais on peut remercier Apple qui, en pleine période d'inflation, nous fait grimper la note à près de 90€.
Alors, vous m'avez dit qu'il y avait quand même une bonne nouvelle avec cette arrivée d'Apple sur ce créneau en Europe.
Ouais, j'ai un peu cherché parce que c'était difficile avec le prix, j'étais un peu traumatisé. Mais non, Apple va vite comprendre en fait que la MLS, bah, c'est pas notre truc. Hein. À nous, les Frenchies, c'est un peu léger, c'est un peu light. Donc, pour s'aligner sur Amazon et les autres plateformes, elle va devoir réagir. Or, quel est le prochain droit qui arrive sur le marché ?
La Ligue 1.
La Ligue 1, le championnat de France, notre championnat, qui cherche notamment un bon partenaire à l'international. Et au total, le projet, c'est 1 milliard d'euros par saison à partir de 2024. Donc bah, rendez-vous à l'appel d'offres de la Ligue 1, c'est à l'automne prochain, pour voir si Apple contre-attaque vraiment.
Bon voilà, alors là on me fait un teaser de ouf en démarrant. Maintenant, fin du suspense insoutenable pour les téléspectateurs de France Télé.
Oui, ça concerne un journaliste et une voix que vous connaissez forcément.
Et puis, j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne serais pas un joueur de tennis. Et Michael qui donne rendez-vous bien entendu à l'année prochaine.
Voilà, vous l'avez reconnu.
C'est le vrai ou c'est un imitateur? Mais non, c'est le vrai Nelson Montfort, évidemment que l'on l'a reconnu. Voilà. Et avec cet exemple savoureux.
95, c'était la défaite de Michael Chang. Bon, il fêtera dans un mois ses 70 ans, Nelson Montfort. Normalement, c'est l'âge limite des salariés de France Télévisions. Bah, sauf que ça fait plusieurs mois que l'intervieweur star des sportifs demande publiquement une faveur à cette direction. En l'occurrence, de pouvoir couvrir les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour boucler la boucle de la plus belle des manières. C'est ce qu'il a répété à longueur d'interview. Eh bien, j'ai appelé Nelson Montfort hier, qui m'a annoncé qu'il venait de recevoir une bonne nouvelle, pas celle de Luigi, mais de sa direction. Il sera bien au micro de France Télévisions pour les prochains JO, comme salarié ou collaborateur extérieur, on ne sait pas encore. En tout cas, Nelson, avec Michel Drucker, qui est lui aussi prévu au programme, ça nous fait déjà deux historiques dans le dispositif JO 2024 de France Télévisions.
Il aura 72 ans, Nelson Montfort. Et puis, vous voulez finir avec un coup de cœur pour un documentaire qui sera diffusé dimanche sur Canal Plus Foot. Ça s'appelle Baby Foot.
Rien à voir avec votre sport préféré dans les bistrots, Philippe. Non. C'est bien plus que ça. Hein. C'est un vrai sujet de société. C'est la maternité chez les sportives professionnelles. Des femmes fortes qui ont longtemps eu peur de mettre au monde leurs enfants pendant leur carrière, mais qui se lancent désormais. Et dans ce film, il est notamment question d'Amel Majri, première internationale française de foot à avoir donné naissance pendant sa carrière. C'était l'été dernier et elle a rejoué il y a seulement deux semaines avec son club de l'Olympique Lyonnais. Et c'est l'ex-joueuse Jessica Ouara, co-réalisatrice du documentaire, qui a suivi le retour à la compétition de l'attaquante avec au début, faute de nounou, la gestion du bébé à l'entraînement. Et finalement, vous allez voir que c'est un mal pour un bien pour un mal.
Ça m'a permis aussi de mieux m'organiser par rapport à ma fille, à préparer son sac, à préparer sa valise. Je dois préparer des biberons. Des fois, après l'entraînement, il faut courir pour tirer son lait. C'est toute une organisation.
Non mais elle amenait sa fille à l'entraînement.
Elle le laissait à de grands gaillards qui s'occupaient de la fille.
Laurent Blanc, qui entraîne les garçons.
Ça, peut-être. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour Amel Majri, mais ça n'a pas toujours été rose à Lyon. Avant d'en arriver là, le film raconte les couacs avec une autre joueuse. C'était il n'y a pas longtemps, 2021. C'est l'Islandaise Sarah Gunnarsdóttir qui n'est pas accompagnée comme il le faut pour le coup financièrement par le club pendant sa grossesse. En fait, depuis 2020, la FIFA, l'instance du foot mondial, impose qu'un club doit accorder un congé maternité rémunéré d'au moins 14 semaines aux joueuses pro. Or, avec Lyon, y aura un salaire de seulement 2 mois et encore après réclamation de la joueuse islandaise.
Incroyable, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté le club?
Non seulement elle l'a quitté pour rejoindre la Juventus Turin, mais elle a attaqué Lyon en justice qui a été condamnée à lui payer 82 000 euros. L'affaire a été très médiatisée, et notamment après la publication d'une tribune par la joueuse islandaise. Et dans le film, pour la première fois, et c'est suffisamment rare pour le souligner, Jean-Michel Aulas, le président emblématique de l'OL, fait son mea culpa.
On aurait peut-être dû être beaucoup plus compatissant, plus... Bon, moi, je me souviens avoir pris le bébé dans les bras quand elle venait me voir, parce qu'on avait de très bonnes relations. Et j'espère que la prochaine fois que je la verrai, l'abcès sera crevé. Et donc, il y a une remise en cause. Même si on pensait avoir tout bien fait, il y a obligatoirement une remise en cause, parce que j'ai été peiné par les déclarations de Sarah.
Je crois que c'est l'une des premières fois que j'entends Jean-Michel Aulas dire qu'il s'était trompé.
C'est vrai.
C'est pas souvent.
Surtout chez les hommes.
Il fallait un enjeu comme celui-ci.
Bien sûr. En tout cas, ça fait bouger les choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Amel Majri, elle, a été totalement soutenue financièrement pendant son congé maternité. Mieux, elle a même prolongé son contrat de 4 ans avec Lyon, seulement quelques jours après son accouchement.
Joli, joli progrès. On vous retrouve, Sacha, vendredi prochain. Et on peut vous lire, évidemment, dans l'équipe. J'ai pas dit l'horaire. C'est diffusé sur quelle chaîne et à quel horaire, ce doc?
C'est dimanche à 12h15 sur Canal Plus Foot.
Et puis, comme on parle de sport et de médias, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. C'est Céline Géraud, qu'on connaît bien, qui était championne de judo, qui était commentatrice, de consultante sur le judo. Elle rejoint Europe Sport chaque mardi, mercredi et jeudi soir. Elle sera à l'antenne de 20h à 23h sur Europe 1. Ça commence dès la semaine prochaine. Et elle était déjà chef de notre service Société Culture, plus le sport. Vraiment, elle a décidément décidément tous les talents. Céline Géraud, on l'écoutera. Merci Sacha, Culture Média.
Merci à vous.
Continue sur Europe 1, évidemment, après les infos de 10h. Notre invité, c'est l'écrivain Laurent Sexic, traduit dans le monde entier, notamment pour ses livres, sa pièce de théâtre autour de Zweig. Là, dans son nouveau roman, il s'attache à un autre génie de la littérature, Franz Kafka. Ça s'appelle « Franz Kafka ne veut pas mourir ». Et puis dans nos indispensables, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Et puis on va partir du côté de Vienne, voire de Prague. Mais oui, hommage à Franz Kafka avec Laurent Mariotte qui va cuisiner l'Autriche. Je crains le pire. Mais non, je plaisante, Laurent, viens dans l'émission. Jean-Luc Lemoine sera là également avec nous pour sa session de rattrapage. Quel programme ? À tout de suite.